Le journal de la rédaction par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Julie, bonjour à tous. La plus grave erreur de sa présidence, Donald Trump, critiqué par son propre camp après sa rencontre avec Vladimir Poutine, à trop vouloir séduire le Russe, l'Américain s'est mis dans une position inconfortable, incompréhensible même dans l'affaire sur les soupçons de l'ingérence russe. Vous le comprendrez dans un instant.
Les Bleus, champions du monde, acclamés sur les Champs-Élysées, des centaines de milliers de personnes avaient fait le déplacement hier pour voir passer l'équipe. Mais le meilleur endroit pour les voir de près, c'était l'Élysée, et nous y serons dans le journal.
Dans cette édition encore, nous irons en Israël où un projet de loi veut mettre l'accent sur le développement des communautés juives, tollé chez l'opposition. Même le président d'Israël sort de sa réserve. On s'attendait à une rencontre musclée au vu du nombre de sujets de discorde. C'était tout le contraire hier à Helsinki, lors de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Une conférence de presse commune a clos la journée et face à la presse, les deux chefs d'État ont semblé avoir résolu un peu facilement certaines de leurs tensions. Donald Trump s'est même présenté comme un grand défenseur de la paix dans le monde et un défenseur de la non-prolifération des armes nucléaires. Stupéfiant.
Je tiens pour responsables nos deux pays. Je trouve que les États-Unis n'ont pas été à la hauteur. Nous aurions dû avoir ce dialogue il y a longtemps, bien avant que je commence mon travail. Et je pense que nous sommes tous à blâmer. Je pense que maintenant les Américains vont aller de l'avant avec les Russes, ensemble. Et ensemble nous allons faire de grandes choses. Nous allons arrêter la course aux armements nucléaires. C'est la chose la plus importante sur laquelle nous devons travailler. Nous avons 90% de la puissance nucléaire mondiale à nous deux. C'est ridicule.
Donald Trump, lors de sa conférence de presse hier, plus stupéfiant encore, interrogé sur les soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine. Le président a affirmé que cette information lui avait été fournie par le chef de la CIA, mais qu'il n'avait aucune raison de le croire. Vive critique de l'autre côté de l'Atlantique, chez lui aux États-Unis évidemment, chez les démocrates et même dans son propre camp républicain, Marco Voltaire.
Trump et Poutine contre l'Amérique, c'est le titre d'une tribune dans le New York Times et qui résume bien la pluie de critiques qui s'abat sur le président. Donald Trump doit réaliser que la Russie n'est pas notre allié, a écrit Paul Ryan, chef de file des Républicains au Congrès. Helsinki est l'une des performances les plus honteuses d'un président américain, a fustigé le sénateur John McCain. Stupéfiant, surréel, dégoûtant, quelques coups sont même partis sur Fox News avant que la chaîne pro-Trump ne reprenne la défense du président. Dans le camp des démocrates, on parle d'une honte, c'est à se demander si Poutine ne dispose pas d'informations compromettantes, selon le leader de l'opposition au Sénat. Enfin, le directeur du renseignement, pourtant nommé par Trump, est sorti de son silence pour défendre les conclusions de ses services. À voir quelles seront les conséquences politiques de cette levée de bouclier, car même si le ciel s'est assombri à Washington, pour Donald Trump, jusqu'ici, les orages ont toujours fini par passer.
Et c'est peut-être la raison pour laquelle le président américain continue ses déclarations dérangeantes pour certains. Hier soir, sur la chaîne de télévision Fox News, il assurait que l'Iran était agité par des émeutes depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien et que les États-Unis soutenaient les manifestants. Des manifestations ont bien eu lieu au début du mois en Iran. Elles dénonçaient en revanche la pollution dans l'eau au sud-ouest du pays. Le secrétaire général de l'ONU demande l'arrêt des violences et la reprise du dialogue au Nicaragua. Même appel de la part de 13 pays d'Amérique latine hier. Il réclame d'ailleurs le démantèlement des groupes paramilitaires qui organise la répression. Comment soutenir le développement des pays du Sahel? Dans le cadre de l'alliance du G5 Sahel et en marge du volet sécuritaire, les États demandent aussi une aide financière pour des projets dans des domaines aussi divers que l'éducation, la formation ou le développement rural. Les bailleurs doivent donc les soutenir, ces projets. Et cette semaine, ils envoient des délégations au Niger. Parmi les Français, Jacques Maire de La République En Marche, vice-président de la Commission des Affaires étrangères.
Les deux éléments importants, c'est donc la réunion d'aujourd'hui donc avec les présidents des 5 parlements du G5 Sahel, où il y aura aussi le président du Parlement européen qui va se joindre à l'initiative, le président Tajani, italien, du Parlement européen, et puis une conférence qui aura lieu à Paris en fin d'année, vraiment un sommet interparlementaire avec les parlementaires des pays de l'Union européenne membres de l'Alliance Sahel, c'est-à-dire France, Italie, Espagne, Allemagne, en particulier Angleterre, les pays, les présidents et les parlements des pays du Sud et les bailleurs de fonds. On a une demande très forte d'augmenter les moyens du contrôle parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que le contrôle sur papier, ça marche pas bien en Afrique. Il faut aller voir sur place ce qui se passe. Est-ce que l'argent est bien dépensé? Est-ce que les gens sont là? Est-ce qu'ils font le travail? Et Et puis, il y a un deuxième élément, c'est au niveau du G5 lui-même, c'est-à-dire que le G5 existe en tant qu'entité intergouvernementale. Il faut que les parlementaires puissent discuter directement avec ce G5. Le fait qu'on se retrouve tous, ensemble en tant que parlement, au niveau des présidents de parlement à Niamey, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait.
Le député Jacques Maire, interrogé par Valérie Crova.
Il est 7h05 sur France Culture. Quatre femmes du groupe féministe contestataire Pussy Riot ont été condamnées hier à 15 jours de prison ferme.
Elle s'était brièvement introduite sur le terrain de football dimanche soir lors de la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie. Vêtue d'uniforme de police, elle souhaitait interpeller l'opinion sur la question des droits de l'homme en Russie et sur les violences policières. 15 jours de prison donc. Le mondial de football et le retour des Bleus en France, c'était hier. Sur un bus décoré aux couleurs des champions du monde, l'équipe a descendu les Champs-Élysées devant une foule de centaines de milliers de personnes. Un passage un peu trop rapide pour certains, car l'équipe avait ensuite rendez-vous avec Emmanuel Macron à l'Élysée, avec aussi plusieurs centaines d'invités amateurs de football. Enfants comme éducateurs étaient évidemment ravis l'aura du lieu.
Sur le tapis rouge déroulé pour l'occasion, on se bouscule pour une photo devant le palais de l'Élysée. Dans une ambiance très colonie de vacances, les jeunes défilent, des étoiles plein les yeux. Parmi ce millier de jeunes invités par Emmanuel Macron, Ramia, 12 ans, elle joue au club de Paris à Casa Futsal et a du mal à réaliser ce qui lui arrive.
Ça fait beaucoup de choses. Macron, les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde.
Avec le même large sourire que ses footballeurs en herbe, Kamel Djama, président du club, ne s'attendait pas à se retrouver ici à l'Elysée.
On a su ça il y a à peu près 2h30. Donc en termes d'organisation, on a réussi à se débrouiller, puis j'ai récupéré un maximum de gamins. Bon, ils étaient emballés de venir, donc c'était plutôt facile pour les récupérer. Voilà.
L'éducateur mesure aussi tout le symbole de la victoire des Bleus.
Plutôt heureux, plutôt fier, plutôt plein de choses de venir ici. On est fiers de ce qu'ils ont fait, on est fiers d'avoir représenté au plus haut niveau notre pays, la France. Ils ont tout donné, ils nous représentent parfaitement. Si on avait un message à leur donner, c'est un message d'être ensemble et de les remercier pour tous ces efforts, pour hisser le plus haut possible l'honneur de notre pays. Donc voilà, très fier.
Une fois la porte du palais présidentiel franchie, les jeunes ont pu accueillir comme il se doit leur champion du monde, le temps d'une soirée sans doute inoubliable.
À l'Élysée encore, mais cette fois ce matin, c'est un rendez-vous qui doit jeter les bases d'un nouveau contrat social, celui du siècle qui s'ouvre. Voici comment Emmanuel Macron présentait cette réunion la semaine dernière devant le Congrès. Il reçoit donc ce matin les 8 principaux responsables syndicaux et patronaux, tous ensemble. Ils évoqueront l'agenda social très chargé à la rentrée. Theresa May a finalement cédé aux pressions des partisans d'un Brexit dur au sein de son parti conservateur, et cela pour obtenir l'accord de la Chambre des communes à propos de son projet sur les futures relations douanières avec l'Union, projet qu'elle doit présenter cette semaine à l'Union européenne. Une ancienne question à présent qui revient au sein du Parlement israélien. Le pays est-il un État démocratique, un État juif ou les deux? Un projet de loi à valeur constitutionnelle définirait Israël comme le foyer national du peuple juif. Le projet a été déposé par le gouvernement Netanyahou et il suscite de nombreuses critique, car il autoriserait officiellement une sorte de ségrégation envers la minorité juive, la minorité non-juive, pardon, dans le pays, soit 20% de la population. Les explications sur place de Marie Semelin.
Raguit Ofran fait partie du mouvement de gauche La Paix Maintenant qui tente de mobiliser contre ce projet de loi. Jusqu'à hier, un de ses articles autorisait des localités à refuser des habitants sur des bases religieuses ou d'origine. Autrement dit, un village juif pouvait refuser des résidents arabes. Pour mettre fin à la polémique, l'article a été modifié pour mettre l'accent sur le développement des communautés juives que, selon le texte, l'État va encourager et promouvoir, une version vue comme tout aussi discriminatoire.
Israël
est une démocratie très problématique puisque depuis 51 ans, nous contrôlons des millions de personnes qui n'ont pas de droits civils. Mais à l'intérieur de nos frontières, nous maintenons une sorte de démocratie, même s'il y a beaucoup de discrimination. Cette loi va s'ébranler. Vous ne pouvez pas simplement dire que ce nés de mères juives ont le droit de vivre dans une localité tandis que d'autres non. C'est antidémocratique et immoral.
Pour les soutiens du texte, comme Amir Weitman, membre du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui l'a présenté, la loi confirme simplement l'ADN de l'État hébreu.
Tous les kibboutzim qui ont été créés
par la gauche socialiste pendant des années sont tous juifs. Il n'y a pas un arabe qui vit dans tous les kibbutzim de tout Israël. Ça fait 100 ans que c'est comme ça. Ça ne remet pas en cause le droit de tous les autres citoyens non juifs de vivre ici et faire ce qu'ils veulent.
Sortant de sa réserve habituelle, le président de l'État, Reuven Rivlin, a dénoncé un projet de loi qui pourrait nuire à Israël et pourrait être utilisé par les ennemis de l'État pour le délégitimer. Le premier ministre israélien voudrait voir, lui, la loi adoptée avant l'interruption parlementaire d'été, dimanche prochain.
Ce mardi s'annonce plus calme qu'hier sur l'est du pays avec seulement de rares averses. Le ciel restera nuageux un peu partout en France. Côté température, la partie nord respire. 19 degrés à Brest et Cherbourg ce matin, 22 à Paris et Lille. Comptez 24 à Lyon et Bordeaux, 27 déjà ce matin à Nice et sur la Corse.
Merci Clara Lecoq-Réal, on vous retrouve à 7h30.